C'est le latin.
Avec quelques instants de retard, mais je voulais pas vous priver, j'étais en train d'écouter comme vous ce texte de Gaston Coutet. Alors je sais pas qui le disait, je sais pas qui l'interprétait ce texte-là, mais voilà, je voulais pas vous priver de cette poésie subversive et libertaire de Gaston Coutet à travers ce texte extraordinaire, je trouve, Les électeurs. Voilà, bonne fin de matinée à toutes et tous, lundi matin, c'est parti.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra. Una spinta e Pinelli va giù. Signor questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto. Tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se insisti aprian la finestra, quattro piani son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato, per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
Balade pour l'anarchiste Pinelli. Radio Libertaire, donc l'émission lundi matin. Le thème du jour sera consacré à ce qui déferle actuellement en direct sur tous nos écrans, à savoir la guerre.
Je me suis levé comme on se lève de table. Et j'ai laissé mon odeur comme on laisse un pourboire. J'ai repris mes esprits comme j'ai repris mon blouson. Et je suis sorti de cette vie comme on sort de prison. Et dehors le noir de la nuit m'a saisi. Et le vide de la foule m'a envahi. Sur la chaussée mouillée, le reflet inversé des phares des voitures comme sur les cartes à jouer. Éclairé sur le tapis vers la fin de la partie, et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on cherche un taxi. Oh, monsieur jouait son opéra baroque, martèlement des papillons sous les pare-chocs. Et des passages cloutés comme des étoiles tombées dans les rues tracent la voie lactée aux anges déchus. Et le flou précis de la houle des parapluies mouillés serpentait comme un dragon chinois laqué qui s'enroule, se déroule magnétique vers les grands parkings, les garages magnifiques. Et puis la grande vitrine s'est avancée vers moi dans la nuit et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on aperçoit le taxi. Oh, monsieur Mécano, trouve-moi une bagnole qui roule vite. Oh, monsieur Mécano, c'est un village, faut que je la quitte, faut que je la quitte. Ah oui, monsieur, je vais acheter, mais avant je veux voir. Je veux une belle couleur contre les idées noires. Ah, le grand break, bien sûr, j'ai vu votre offre, mais qu'est-ce que je ferais d'un si grand coffre? Ah, je sais, c'est agréable, vous avez raison, mais une décapotable, c'est plus la saison. Oh, je vais vous dire ce qui ferait mon bonheur. Un bon moteur et pas de rétroviseur. Et puis je l'ai vu avec sa belle peinture rouge vernie et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on monte dans le taxi. Oh, monsieur Macalo, trouve-moi une bagnole qui roule vite.
Béa Tristan, à l'instant sur les ondes de Radio Libertaire. Radio Libertaire, donc l'émission lundi matin, avec comme chaque lundi, l'agenda. Se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Et une petite sélection de quelques rendez-vous. Je dis petite parce que je renvoie toujours chaque semaine sur deux sites importants pour ce qui est des rendez-vous militants en région parisienne. C'est l'agenda indépendant et Paris Lutte Info. Donc, petite sélection par avant le rappel que je fais chaque semaine. Vous pouvez vous rendre sur le site radio-libertaire.org pour contribuer, si vous le pouvez, au soutien à Radio Libertaire, à la rubrique « Nous soutenir ». Donc, quelques rendez-vous. Pour commencer, ça sera un apéro général contre les centres de rétention administrative. Une discussion, donc, contre les centres de rétention, avec un faux kiosque, petit apéro avec l'Assemblée anti-CRA d'Île-de-France. Ce sera le mercredi 18 juin à 19h sur la place des Fêtes. Place des Fêtes, c'est, je crois, le 20e. Donc, les CRA, pour rappel, donc les centres de rétention administrative, sont des lieux de privation de liberté dans lesquels l'État enferme les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Combinant des logiques d'enfermement et d'expulsion, ils maintiennent le système d'exploitation raciste qui s'appuie sur les frontières et les politiques migratoires. En réaction, les personnes enfermées s'organisent et se révoltent. Grève de la faim, tentative d'évasion, émeute, incendie, etc. C'est en solidarité avec elles qu'existe donc l'Assemblée contre les CRA. Donc un apéro général, l'occasion de discuter. Donc le 18 juin, place des Fêtes à 19h. Autre rendez-vous encore, j'en avais parlé il y a déjà une semaine ou deux, c'était à la une du mensuel L'Union pacifiste du mois de mai, guerre à la guerre, 20-22 juin, Paris, week-end de mobilisation contre la tenue du salon du Bourget. Donc dimanche 22 juin, il y aura donc un village anti-guerre. Pour rappel donc, du 16 au 22 juin se déroulera la 55e édition du Salon du Bourget au nord de Paris, donc le plus important salon d'armement du monde. Une 55e édition qui intervient dans une séquence où la Commission européenne a annoncé un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, soit 5% du PIB européen. Cela s'accompagne d'une hausse des budgets militaires et de projets de réforme visant à rétablir progressivement le service militaire dans l'ensemble des pays européens. La France, première puissance militaire du continent et deuxième exportatrice d'armes au monde, ambitionne d'atteindre 90 milliards de budget pour la défense dans les prochaines années. Un objectif qui repose sur l'accélération de la destruction des services publics et la perspective d'attaques d'ampleur contre les conditions de travail. Alors que le génocide à Gaza et la colonisation des territoires palestiniens se poursuivent avec le soutien inconditionnel des puissances occidentales, ce salon sera par ailleurs l'occasion pour Israël d'exposer ses armes testé au combat sur les civils palestiniens, mais aussi de conclure de nouveaux contrats d'armement avec des entreprises du monde entier, notamment des groupes français comme Thales ou Safran. Nous nous opposons à la présence d'Israël au salon, nous refusons ce business de la guerre et voulons agir ensemble pour enrayer la course à l'armement. Du 20 au 22 juin, mobilisons-nous contre l'économie de guerre, contre le business de la mort, contre la participation d'Israël au salon. Donc, rappel, dimanche 22 juin, village anti-guerre. Ça va se passer donc plus précisément à la Bourse départementale du Travail, place de la Libération, à Bobigny. Autre rendez-vous encore. Ça sera donc une soirée de soutien et d'information. Il sera question de Bure et de La Hague. Une soirée donc contre le nucléaire et son monde. Ça va se passer le 21 juin à partir de 15h à la Parole Errante, rue François de Berg. On est donc à Montreuil. Donc une soirée d'information et de soutien à ces deux luttes donc qui sont menées à la fois à La Hague et à Bure, avec à 15h30 une table ronde écoféministe et antinucléaire avec Xavier Gauthier et Sophie Houdard, autrice de Retour à La Hague. À 17h30, Filouterie nucléaire, un récit de l'implantation de l'ANDRA en Meuse, suivi d'une discussion sur l'actualité des luttes antinucléaires. 19h30, Affaire nuisible, Tarnac, un spectacle sur la fameuse affaire dite de Tarnac et ses origines et soubassements antinucléaires. Et puis 21h, ça se conclura en musique avec des concerts. Un petit tour maintenant à la librairie Publico. À la librairie Publico avec un rendez-vous. Ce sera le 18 juin. Au 145 rue Amelot, bien évidemment, hein, dans le 11e arrondissement de Paris, métro Oberkampf, Foufi du Calvaire, l'entrée sera libre. Ça sera le ciné de la commune organisé par le groupe Commune de Paris de l'AFA. Un documentaire, puisque c'est le ciné de la commune, donc un documentaire sera projeté, Le Métron, mémoire de l'histoire ouvrière. Le Métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qu'on appelle communément le Métron. Et donc, un film sera projeté, réalisé et en présence de sa réalisatrice, un film qui évoque l'histoire de ce métron et de celui qui l'a créé. Le 18 juin, donc, à 20h, à la librairie Publico, la librairie du Monde Libertaire. Et puis, concernant la librairie Publico, on est donc toujours au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Une exposition, le vernissage aura lieu prochainement, ça sera le 21 juin, une exposition qui va remplacer celle qui est là actuellement et qui est une très belle exposition de pochoirs. Donc nouvelle exposition qui va prendre place sur les murs de Publico, vernissage le 21 juin à 16h. Exposition intitulée « Intelligence artificielle contre leurs rêves » de Julie Gau. « Intelligence artificielle contre leurs rêves » dont nous ne voulons pas car ce sont nos cauchemars. Et puis enfin, ce sera pour le mois de juillet. C'est nous-mêmes ici présents, là ce matin moi tout seul, Laurent, mais aussi mes camarades du groupe Libertaire d'Ivry, une projection. Alors on va projeter un peu un classique, alors si vous l'avez vu, peut-être prendrez-vous plaisir à le revoir. C'est le film de 1974 de Richard Fleischer qui s'intitule « Soleil vert » et dont l'action, et c'est ça qui est marrant, est située en 2022. Et le film a été réalisé en 1974, donc l'action se situe en 2022 dans un New York surpeuplé qui baigne dans une étrange lumière jaune qui a détruit la faune et la flore. Les fréquentes émeutes de citoyens affamés sont sévèrement réprimées. Les riches achètent les rares aliments naturels à prix d'or. Les autres doivent se contenter d'un aliment de synthèse produit par une multinationale, le soleil vert. Pourquoi projeter ce film-là ? Parce que ce débat reposera autour d'une question qui fera aussi l'objet d'une émission de lundi matin, c'est « La futurologie est-elle une science exacte ?» Voilà, on a le temps d'en parler et on en parlera dans l'émission. C'est jeudi 10 juillet à partir de 18h30, donc l'accueil dès 18h30 et projection du film à 19h30. Voilà. Donc le 10 juillet parce que la librairie Publico du Monde Libertaire reste ouverte cet été. Et oui, tout le monde ne part pas en vacances. Alors nous pensions que une librairie militante ne devait pas s'adonner à ce grand exode estival, et que ceux qui ne partent pas, qui n'ont pas les moyens de partir, ont le droit de continuer à lire, à s'informer, à rencontrer des gens, à venir voir un film à Publico et en débattre. Voilà. N'oubliez pas aussi que ce dernier week-end. Alors là, j'ai pas l'annonce sous les yeux, mais de mémoire, ça va être le samedi, le dernier samedi et dimanche du mois, donc ça doit être le 28 et le 29, si je me trompe pas. Ça sera à partir de 11h, le samedi et le dimanche, la grande braderie de Publico. Donc l'occasion d'avoir accès à un choix assez large de livres, à des livres d'occasion à des prix très très réduits à partir de 1€. Et donc peut-être de trouver le livre que l'on cherchait depuis longtemps et que l'on n'arrivait pas à trouver, ou de laisser sa curiosité exploser et de repartir pour quelques euros avec des livres sous le bras. Il y aura aussi de la musique, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Donc, dernier week-end, samedi, dimanche, 28-29, j'ai pas de calendrier sous les yeux, mais je pense que c'est ça, à partir de 11h et toute la journée jusqu'à 19h, donc devant la librairie Publico, avec peut-être du beau temps, si la chance est avec nous. Du côté de la presse, je vais me contenter de rappeler que Le Monde Libertaire 1873 est sorti pour ce numéro de juin. Art Anarchie à la une, qui renvoie donc à un imposant dossier sur le sujet à travers donc ces 56 pages. Non, pas 56, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a quasiment 70 pages donc du monde libertaire. Donc vous pouvez, en principe, trouver à la librairie Publico. Autre journal que vous pouvez trouver à la librairie Publico, c'est L'Envolée. L'Envolée, pour en finir avec toutes les prisons, au prix de 2 euros. Et rappelons qu'il est gratuit. Si vous nous écoutez et que vous êtes prisonnier ou prisonnière, eh bien, sachez que L'Envolée, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez le recevoir gratuitement donc en prison. En écrivant à L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, le recevoir quand l'administration pénitentiaire, pardon, eh bien, n'interdit pas, ne censure pas donc L'Envolée, ce qui a été donc le cas pour les numéros 52, 55 et 56 qui avaient été donc censurés par l'administration pénitentiaire. Donc L'Envolée, pour en finir avec toutes les prisons, un journal essentiel. Voilà, et j'en profite pour rappeler aussi que L'Envolée, c'est une émission de radio sur FPP et que sur Radio Libertaire, le mercredi tous les 15 jours à 20h30, vous pouvez retrouver donc l'émission anticarcérale de la station qui s'appelle Carapatage, voilà, Carapatage, donc sur Radio Libertaire. Il est 11h31, retour à la chanson avec donc David Vincent et ses mutants. À tout de suite.
À côté de sa fille, haut du pont loup. Il va pleuvoir du zoom pénito, des trompettes à l'argent faux. Dès demain, réjouissance, les sacs de stage et l'opéra vont se faire en concurrence. Et le vague se tapera. Ouais, mais ça va nous dans le manche le long des jours.
David Vincent et ses mutants. Donc, je le disais, la guerre qui déferle ici, du moins sur nos écrans. Il sera donc question aujourd'hui de la guerre, d'antimilitarisme aussi. L'antimilitarisme est un est un point fondamental pour les anarchistes, comme l'anti-étatisme, comme l'anti-capitalisme. Je pourrais énumérer pas mal de choses, et tout ça, ça ferait pas mal d'anti, qui appellent aussi, qui rappelle aussi cette évidence, c'est que quand on est anti, quand on est contre, c'est qu'on appelle en désir tout un tas d'autres choses, la paix, concernant l'antimilitarisme, mais pas n'importe quelle paix, bien évidemment. Donc la guerre du Golfe. Rappelez-vous, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, déjà à l'époque, l'idée qui était largement diffusée dans tous les médias occidentaux, c'était que cette guerre... à laquelle s'était alliée d'ailleurs la France. Rappelez-vous cette solennelle déclaration de Tonton, comme l'appelait affectueusement la gauche à l'époque, Mitterrand donc, l'avait dit dans une allocution présidentielle qu'il avait conclu de cette façon-là, à savoir « maintenant les armes vont parler ». Et s'en est suivi donc cette guerre, donc avec pour cause le fait que l'Irak donc était doté d'armes de destruction massive et représentait donc un danger majeur. Cette guerre qui avait donc suscité un large, très très large mouvement donc anti-guerre. À Paris, il y avait des manifestations régulières, interdites, mais qui se tenaient. Il y avait des comités anti-guerre qui s'étaient créés un petit peu partout, sur Paris, banlieue, et à travers la France aussi, bien évidemment. Il y avait eu des actes de sabotage, des dockers qui avaient refusé de charger des armes, des cheminots qui avaient refusé de convoyer des trains, des actes réels, même s'ils ont été minoritaires. Mais en tout cas, voilà, il y avait eu un renouveau de l'antimilitarisme au-delà des, entre guillemets, cercles traditionnels de l'antimilitarisme. Et puis, la guerre a éclaté, et je l'avais relaté à l'antenne. Pour moi, ça avait été un effroi assez, assez terrible. Je me rendais de bonne heure à Radio Libertaire, et le matin... dans un petit bar du 20e, il n'y avait pas la même ambiance que d'habitude. Tous les journaux étaient déployés, à savoir à cette heure-là Le Parisien, qu'on lit dans les cafés tôt le matin, et à la une, simplement écrit « La guerre ». Et voilà, les gens lisaient Le Parisien, il y avait un silence de mort, donc c'était donc la guerre. Et puis la guerre est arrivée donc sur nos écrans et sur les chaînes de télévision. On voyait toujours ces écrans verts qui ressemblaient donc à des écrans de jeux vidéo tels qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire encore pas trop développés par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc des écrans verts où on voyait des cibles qui étaient impactées par une bombe, un missile ou autre, et ça ressemblait fort à un jeu vidéo, comme si cette guerre était un jeu sans victime, un jeu sans mort, un jeu sans visage, en quelque sorte. Voilà, je parle pour ceux qui avaient l'âge, évidemment, donc à l'époque, d'être là et d'être peut-être présents devant leurs écrans. Et puis, aujourd'hui, depuis quelques jours, eh bien, la guerre donc, déferle à nouveau sur nos écrans. Et là aussi, avec ces images qui ressemblent à des images de jeux vidéo. Et ce que j'ai vu, alors que je regardais les infos, c'était le premier jour de cette guerre. À l'époque, on ne disait pas encore guerre. Pudiquement, on appelait ça autrement. Il y avait une image, deux images fixes, donc en Israël, de Tel Aviv, et de Jérusalem, donc dans un ciel, la nuit, donc un ciel noir, dans lequel on voyait des points lumineux, qui étaient donc des missiles, et d'autres points lumineux qui étaient les missiles sol-air israéliens qui donc allaient détruire les missiles envoyés par l'Iran. Et dans ce ciel noir, un missile donc qui passe à travers ce qu'on appelle le dôme de fer, et on voit ce petit point lumineux qui descend très très vite sur la ville, et puis tout d'un coup on voit donc une lumière intense, et c'est le choc de l'explosion. Et là, j'entends le commentaire enthousiaste d'un journaliste qui disait « Vous êtes bien sur BFM et nous vivons en direct la guerre ». Vraiment très très enthousiaste, hein, d'ailleurs. Et moi, je pouvais pas m'empêcher en regardant ça. En tout cas, c'est ce qui m'a traversé tout de suite. Je me suis dit, ce petit point lumineux, commenté avec une certaine excitation de la part d'un journaliste, venait de toucher la ville. Et je me suis dit, ce petit point lumineux, suivi d'une explosion, puis d'un écran de fumée qui monte dans le ciel, ça veut dire combien de morts ? Ça veut dire combien de blessés ? Ça veut dire combien de familles, anéanties par le deuil ? Et puis, au-delà de l'aspect humain, je me suis dit, l'image était lointaine, donc on ne voyait pas le détail, mais je me suis dit, ce missile qui tombait sur une ville a dû détruire ou endommager sérieusement donc un immeuble. Et je me suis dit, alors, quand une fraction de seconde, en réalité, donc un immeuble s'était peut-être donc effondré, et que cet immeuble, ça représentait des centaines, des milliers d'heures de travail pour avoir été élaboré, pour avoir été construit. Ça représentait aussi du savoir, ça représentait de la compétence, et que tout ça avait été réduit en une fraction donc de seconde. Et puis après, d'autres images nous sont parvenues de Téhéran, les mêmes images de jeux vidéo, où là, c'était des infrastructures liées au nucléaire ou des infrastructures militaires ou énergétiques qui avaient été visées. Aussi, des dignitaires avaient été visés par ces frappes-là. Mais là aussi, je me disais que ces dignitaires vivaient donc dans des maisons, vivaient dans des immeubles, et que là aussi, des civils avaient été touchés par ces frappes, par ces missiles. Et je me disais aussi, nous voilà de nouveau, comme à chaque fois, devant des écrans, en train de regarder la guerre en direct, la guerre en live, et que nous en sommes les spectateurs, que nous en sommes les spectatrices. Comme nous sommes spectateurs, spectatrices d'autres guerres, celle menée en Ukraine, où là aussi missiles et drones délivrent leur destruction avec tout ce qui s'ensuit comme perte humaine, et là aussi donc perte humaine, ça veut dire des morts, des blessés, des mutilés, des familles endeuillées, ça veut dire tout un tas d'infrastructures utiles à la vie collective qui sont détruites, qui sont endommagées. La guerre en direct aussi, c'est Gaza, détruite à 70% et une population totalement décimée. Et dans ce contexte-là, on retrouve donc la propagande. On retrouve donc la propagande. On nous dit, côté israélien, que cette guerre est existentielle. Côté Iran, on nous dit aussi que cette guerre est existentielle. Et d'une certaine façon, c'est vrai pour les deux parties. mais existentiel pour qui ? Et même dans la presse, on commence à avoir des petits points de vue un petit peu dissonants sur les raisons de cette guerre. Ainsi, dans l'éditorial de Libération, ce matin, en conclusion de cet édito, il est écrit « Et les dernières cibles visées par Israël, les sites pétroliers et gaziers, semblent indiquer que le nucléaire n'était qu'un prétexte ou, disons, une opportunité. » Benjamin Netanyahou, qui brandit la menace iranienne depuis plusieurs décennies, est assuré, en mettant le feu à l'Iran, de rassembler tout Israël derrière lui, et donc de rester le chef de guerre dont il a endossé le costume pour rester au pouvoir. La population iranienne, qui, dans sa grande majorité, abhorre ce régime des mollahs, qui la terrorise et la prive de toute liberté, aura-t-elle le même réflexe ? C'est ce qui déterminera sans doute la suite de la guerre. Parce qu'il en est ainsi des guerres, évidemment, quand un État rentre en guerre, c'est toujours pour une question existentielle. Existentielle, donc, avec ce bémol, à savoir existentielle, souvent, bien souvent, pour ceux qui sont au pouvoir. Existentielle pour les mollahs, dans un contexte où, on l'a vu, l'Iran a été agité par de nombreuses manifestations, je pense au mouvement Femmes, Vie, Liberté, bien évidemment, mais pas seulement, Israël, où la politique de ce gouvernement d'extrême droite est contestée aussi en interne. Donc, des États, des pouvoirs qui sont fragilisés et qui recourent à ce qui peut remobiliser autour d'eux la population, à savoir le réflexe donc nationaliste. Et ça marche un petit peu partout. Qu'on se rappelle donc la guerre des Malouines. La guerre des Malouines, j'ai plus la date en tête. La guerre des Malouines, c'est donc l'Argentine qui revendiquait donc ces îles au large donc de l'Argentine, donc les Malouines, et donc qui sont donc occupées par donc la Grande-Bretagne, qui avait dessus une toute petite base militaire sur cette île déserte, d'ailleurs, ou quasi déserte. Et donc l'Argentine, ou plus précisément les militaires qui étaient au pouvoir et qui faisaient régner une dictature féroce sur l'Argentine, réoccupent donc militairement cette île, et s'ensuit une guerre donc entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, guerre dans laquelle l'Argentine a été défaite. Et lorsque j'étais en Argentine, donc en 1983, j'étais là-bas juste quelques mois après donc la fin de la dictature des militaires et le retour de la démocratie donc des jeunes argentins, Argentine, avec qui j'avais discuté, me disaient que deux jours, ou même une journée avant que l'Argentine ne dépose les armes, eh bien, les militaires continuaient de publier des communiqués victorieux sur la guerre pour eh bien, souder autour d'eux la population, pour unifier autour d'eux la population dans un réflexe donc nationaliste. Et la recette est un petit peu la même partout. On voit ça un petit peu partout. Quand un pouvoir est en déperdition, quand il est contesté, eh bien, il cherche, il trouve un ennemi. Cet ennemi, ça peut être un autre pays. L'ennemi peut être aussi un ennemi intérieur, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, où l'ennemi intérieur, eh bien, c'est ces milliers de personnes à travers les États-Unis qui manifestent donc en solidarité avec donc les migrants, et qui luttent et qui résistent pour empêcher donc l'expulsion de migrants. Donc l'État a toujours besoin d'un ennemi pour provoquer eh bien des réflexes donc de solidarité autour de lui. L'Argentine, j'en ai parlé, Donc Israël, je l'ai cité aussi, on pourrait parler bien évidemment aussi de la Russie, de Poutine par exemple, qui essaye aussi de galvaniser ce réflexe nationaliste autour de lui, autour du drapeau, autour de valeurs patriotiques, tout cela en exhumant une histoire, en utilisant l'histoire pour rendre légitime tout cela. Bref, des recettes éprouvées partout et qui ont fait qui ont marché, faut bien le dire, souvent et trop souvent. Alors faudrait, pour résister à tout cela, renouer avec quelque chose qui relèverait d'une internationale antimilitariste. Renouer avec l'internationalisme cet international antimilitariste, elle a existé. Elle a existé, mais ça nous ramène à plus d'un siècle, bien évidemment, à l'époque où le mouvement socialiste, toutes tendances confondues, et au-delà même des divergences qui existaient en son sein, de ces courants qui existaient en son sein, entre les socialistes qui étaient révolutionnaires, ceux qui ont dérivé vers le parlementarisme, les conceptions libertaires, les conceptions autoritaires, bref, tout ce qui pouvait s'affronter au sein de ce qu'on pourrait appeler le socialisme, jusqu'avant la guerre de 14-18, il y avait quand même un socle commun, et ce socle commun, c'était la résistance donc au militarisme, la résistance à la guerre, avec cette croyance, avec cette conviction, que face à la guerre qui arrivait au moment de 1914, la grève générale était le moyen de s'opposer donc à la guerre. L'histoire, et je l'ai déjà relaté ici, on la connaît, ça a été l'effondrement de cette conception antimilitariste, Les socialistes, la SFIO à l'époque, on rejoint, l'appel guerrier, l'appel à l'unité, ont même voté les crédits de guerre, etc. Bref, un véritable effondrement, et là aussi, je l'avais évoqué, une partie du mouvement anarchiste va aussi sombrer dans cet appel-là, et rejoindre le camp de la guerre. Donc c'est terrible qu'on regarde aujourd'hui ou qu'on regarde l'histoire, on a l'impression d'assister toujours un petit peu au même effondrement en quelque sorte. Au moment où il faudrait se mobiliser autour de valeurs fortes, internationalistes, mettre à bas, au moins par les mots, les frontières, les États, on assiste souvent à un effondrement. Un effondrement terrible, et d'ailleurs cet effondrement, celui qui a précédé l'éclatement de la guerre en 1914, est-ce que les forces d'émancipation sociale, pour parler très largement, s'en sont remises? Certainement jamais, même si l'antimilitarisme n'est pas mort. On l'a vu à l'occasion de la guerre du Golfe, il y a eu un renouveau de l'antimilitarisme en France notamment. Mais je crois qu'en réalité, on s'en est jamais remis de cette capitulation, de cet échec, qui était aussi, la capitulation du socialisme pour devenir un parti, des partis social-démocrates, des partis électoralistes, pour en arriver en France au Parti socialiste d'aujourd'hui, où... on l'a vu au moment de la guerre du Golfe, Mitterrand qui fait rentrer la France en guerre, et même jusqu'à un Mélenchon aujourd'hui qui prône pour et en faveur de l'armement, et donc d'une certaine forme aussi de service militaire pour la jeunesse. Donc une gauche qui a largement capitulé, et cela depuis plus d'un siècle, devant ce qui avait été quelque chose de fondamental dans le socialisme et dans même les socialismes. Il est midi, on va faire une petite pause et se retrouver dans quelques instants, le temps d'écouter ACAB. Le temps d'écouter ACAB, encore un jour sans massacre. On se retrouve dans quelques instants.
J'abomine les écoles et tout ce qui y ressemble. Je répugne à tout ce qui est professoral, appliqué à la littérature qui, elle, au contraire, est tout à fait individuelle. Et pour moi, le cas d'un poète, une société qui ne lui permet pas de vivre, c'est le cas d'un homme qui s'isole pour sculpter son propre tombeau.
Secondes, puis les premières, qui sortent en grappe, rallument leur clope, qui traînent la patte, qui écoutent du rap, sur leur iPhone ou de la dark folk. Il y a les mecs, la peau brandée, la tête en vrac, bardée de toc, qui passent leur nuit à beach drinker, pour oublier qu'on les formate. Il y a les filles, une info plastique, moitié soumises à toutes les modes, qui kiffent James Dean et Johnny Depp, qui se font slut shame ou bien escort. Il y a les vieux des SNTG, qu'on veut même plus au RSA, pour qui bac, ça veut dire police. Qui s'immoleront devant Pôle emploi. Il y a des Noirs et des Arabes qui entendent parler d'Afghanistan, mais qui se foutent d'Al-Qaïda comme je me fous du Vatican. Il y a des geeks et des gothiques, des gangsters qui depuis les autres, des pas très riches, des très très pauvres, quelques sous-chiens au fond de la cour. Il y a ceux qui ont fait l'amour, il y a ceux qui essaient de le faire croire, des mangeurs d'herbe par défaut, des altersexes par hasard. Il y a tous ceux qui ne deviendront rien et tous ceux qui se feront avoir. Ils effeuillent tous leurs colis, un bon coup à la folie. Ils effeuillent tous leurs colis. Puis il y a Lola qui est belle comme un drapeau noir et qui regrette parfois le soir. Encore un jour sans massacre, à recalculer en cours de maths le nombre de morts et de blessés qu'on voudrait faire le jour du bac. Et puis les profs sortent alors avec leur gueule de Témesta, la prof d'histoire qui a plus de mémoire, le prof de sport qui est alcoolique, la prof de lettres qui enseigne aussi, puis la réforme un peu de physique, 3 heures d'allemand par-ci par-là, un brin de compta, 2 doigts de musique, le prof d'anglais qui vient après, est à mi-temps, à 60 ans, les militants au syndicat, mais il défend que ses intérêts, le prof de maths qui sort ensuite, a du mérite et des échelons, 2-3 mariages, plusieurs enfants, mais toujours pas sa mutation, la prof philo qui arrive derrière, après ses heures supplémentaires, elle se demande bien à quoi lui sert, son doctorat sur Heidegger, puis enfin la prof d'art plastique, qui n'aime plus l'art ni la jeunesse, qui dit que tout se barre, qu'elle en a marre, qu'il faut que ça casse ou bien que ça cesse. Il y a ceux qui ont leurs annuités, il y a ceux qui aimeraient les avoir, il y a ceux qui sont déprimés, il y a ceux qui ont des idées noires, il y a tous ceux qui ne sont rien et tous ceux qui se sont fait avoir. Ils effeuillent tous leurs colis, un peu beaucoup à la folie. Ils effeuillent tous leurs colis, un peu beaucoup à la folie. Puis y'a Lola qui est brune comme un soleil noir et qui répète un peu tous les soirs. Encore un jour sans massacre, à recalculer en cours de maths le nombre de morts et de blessés qu'on voudrait faire le jour du bac. Lola sort pas, Lola reste là. Elle, c'est la fille du proviseur. Elle est si belle, elle est si brune. Elle est si fière, rien ne lui fait peur. Elle dit qu'un jour viendra quelqu'un qui foutra le feu au lycée. Que ce jour-là, ce sera bien. Que celui-là, elle va l'aimer. Que celui-là, elle veut le voir. Que ce jour-là, elle sera là. Que ce jour, c'est peut-être demain. Que celui-là, c'est peut-être moi. Qu'en attendant, pour elle, je ne suis rien. Et jamais je ne pourrai la voir. Elle effeuille les encolis. Un peu beaucoup à la folie. Elle effeuille les encolis. Beaucoup à la folie. Et puis à moi, qui lui promets chaque matin que c'est pour demain et qu'il reste encore un jour sans massacre à recalculer en cours de maths le nombre de morts et de blessés qu'on voudrait faire le jour du bac. Encore un jour sans massacre, sans amok, sans tuerie, sans carnage, à réécrire l'histoire d'Azincourt, Waterloo, de Verdun, Oradour, Saint-Jean d'Acre. Encore un jour sans massacre, à chercher en géo sur la carte où se trouve Little Tank, Wadjoki, Erfurt, Osaka et Red Lake. Encore un jour sans massacre, à philosopher en salle 104 sur Stirner et Sioran, Bakounine, Bonanno, Althusser, Kaczynski, Bey et Sade. Encore un jour sans massacre, à rêver en chimie de nitrate, de phosphore, de phosgène, de sarin et d'arsine, de méthyle, fluorophosphonate. Encore un jour sans massacre, asséché en latin sur ses crânes. Vanitas, vanitatum, omnia vanitas, abyssus, abyssum invocat. Encore un jour sans massacre, l'anglais sur de l'attaque, en écoutant en boucle des Zinchou, les Joy D, les Sisters, les Bauhaus, Black Sabbath. Encore un jour sans massacre, à ployer sous le poids de son sac, et à aller au sport comme on marche au tombeau, en sifflotant le chant du diable. Encore un jour sans massacre.
Nous sommes chrétiens, c'est une chose qui ne se refuse pas. Si tu dis non, nous serons maudits par le Seigneur, et au pays, dès qu'on parlera du Pequod, tout le monde crachera sur Akkad.
Capitaine d'ordinaire, je suis à la poursuite de la palette blanche, et je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je pars sur le champ. Je t'ai dit au revoir et adieu, camarade. Dieu te protège, capitaine d'ordinaire. Que Dieu te pardonne, capitaine Ahab.
Voilà, on vient donc d'écouter Ahab à l'instant. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Libertaire, l'émission lundi matin. Donc je le disais, on est spectateur, spectatrice donc de cette guerre devant nous. Eh bien, cette folie destructive, cette folie nationaliste aussi, et puis ce sentiment d'impuissance en réalité. Alors concernant Gaza, bien sûr, il y a des manifs, évidemment, mais c'est quand même une forme d'impuissance devant ce qui se passe. Alors impuissance ne veut pas dire non plus inaction, notamment ici j'ai relayé bon nombre d'initiatives concernant la guerre donc entre la Russie et l'Ukraine, des initiatives notamment visant à soutenir les insoumis, les déserteurs et la jeunesse qui fuyait la guerre tant en Russie qu'en Ukraine. J'ai relayé ici des infos qui consistaient donc à dire tout simplement, informer et déjà une forme de résistance, ce qui pouvait se passer des deux côtés de la frontière, à savoir tous ces actes de désobéissance, tous ces actes de résistance, en Russie tous ces actes de sabotage qui pouvaient avoir lieu contre la guerre, de manifestations ou autres. Donc ce sentiment d'impuissance ne veut pas dire non plus le fait d'être complètement paralysé et inactif, mais la guerre, comme je l'avais déjà exprimé, ou comme même je l'exprimais tout à l'heure, du moins c'est comme ça que je le ressens, c'est un effondrement. Et pour revenir sur ce sentiment d'impuissance, quand on est, entre guillemets, en temps de paix, eh bien, la guerre de classe, elle, peut avoir lieu dans un pays. Les rapports inégalitaires sous-tendent une lutte de classe permanente, une tension permanente qui s'exprime à travers les conflits sociaux, notamment. Lorsque la guerre arrive, eh bien, tout cela est balayé, en quelque sorte. On ne pense plus dans ces termes-là. On pense sa survie. Quand on s'est laissé gagner par la folie nationaliste, eh bien, on pense patrie, drapeau, etc. Et donc, tout ce qui pouvait constituer, alors, dans une perspective libertaire, un espoir, eh bien, s'effondre complètement, ou en grande partie, du moins, puisque, on l'avait vu, même dans une période comme la Seconde Guerre mondiale, si les libertaires, face à cette Seconde Guerre mondiale, eh bien, se sont éparpillés, en quelque sorte, certains partant sur le front, d'autres désertent. D'autres qui vont déserter, d'autres qui vont, comme Épicrée, par exemple, eh bien, essayer d'aider les Juifs qui étaient persécutés. Bref, il y a eu toute une gamme d'attitudes possibles jusqu'à rentrer dans la résistance, par exemple. Bref, il y a eu toute une gamme d'attitudes possibles. Mais le terrain qui est le nôtre, c'est-à-dire le terrain social, le terrain de la guerre sociale, eh bien, n'existe plus. Et c'est en ce sens que je dis aussi que c'est un effondrement en quelque sorte. Donc, de quel côté se positionner ? On nous demande toujours cela quand on est anarchiste. Faudrait qu'on se positionne. Et quand on se positionne contre la guerre, contre les États, comme c'était le cas par exemple pendant la guerre du Golfe, puisqu'on était contre la guerre, c'est donc qu'on était des pro-Saddam. Et il est très dur et très compliqué de faire valoir donc ce qu'est une position intégralement antimilitariste, intégralement anti-étatiste. Et à ce moment-là, je me rappelle le temps qu'il fallait passer pour expliquer que si on était contre la guerre, on était contre les guerres, qu'on était contre tous les États. et que ça n'avait rien à voir avec une quelconque prise de position qui serait une prise de position pro Saddam. Même si tout peut être instrumentalisé en réalité. Ainsi, par exemple, concernant donc la guerre actuelle, les guerres actuelles, celles menées à Gaza et celles donc entre Israël et Iran, eh bien, on peut voir dans des médias et même des médias très très à droite, eh bien, par exemple, s'exprimer cette position concernant les Iraniens, concernant les Iraniennes, que donc ils devraient se révolter pour mettre à bas le régime des Mollahs. Alors, mettre à bas un tel régime, oui. Ensuite, évidemment, on peut se poser tout un tas de questions. Le mettre à bas, pourquoi ? Pour le remplacer par quoi ? Sachant que, au vu de ce que je peux connaître de l'Iran aujourd'hui, même s'il y a des anarchistes, ceux-là ne sont pas, je pense, actuellement en position de force pour mettre à bas tout simplement l'État. Mais en tout cas, cette possibilité, que ce régime soit renversé par le peuple, eh bien, est une possibilité certes encouragée et donc instrumentalisée aussi par des forces, par des États dont le bonheur du peuple iranien n'est pas la première des préoccupations. On peut aussi instrumentaliser aussi, par exemple, et là aussi, j'entends ça dans des médias plutôt très très à droite, eh bien, le fait que la population de Gaza devrait se révolter contre le Hamas. Et c'est vrai qu'il y a eu dans la bande de Gaza des manifestations palestiniennes contre le Hamas et que cela demande un courage énorme, évidemment, tout comme cela appelle un courage énorme de manifester dans les rues de Téhéran et des grandes villes iraniennes contre ce régime théocratique. Tout cela demande du courage, tout cela correspond aussi à des aspirations, même si ce n'est pas des aspirations anarchistes, à des aspirations pour accéder au moins à certaines formes de liberté et d'un minimum de bien-être social. Et donc, il y a des instrumentalisations qui sont possibles. Parce que eh bien, les États... sont là. Les États considèrent le monde comme un grand jeu d'échecs sur lequel ils avancent leurs pions et la population palestinienne est un des pions qu'ils peuvent utiliser, avancer, manipuler, tout comme l'est aussi la population iranienne. Donc dans ce grand dans ces grands confrontation donc entre États dans ces guerres, eh bien, sans être des grands stratèges, sans être des férus de diplomatie, je pense qu'on peut avoir en tête ce qu'on a souvent énoncé donc dans l'émission. On a souvent parlé dans l'émission de ces principes élémentaires donc de propagande de guerre, qui avait été donc élaboré par un lord anglais après la guerre de 14-18, qui était un pacifiste tout en étant lord. Il n'était pas anarchiste, c'était un politicien, mais il avait donc écrit donc ses écrits, et ça a été repris par une auteure, Anne Morelli, qui avait donc illustré donc dans un livre qu'on peut toujours trouver donc chacun de ces 10 principes là, principes élémentaires donc de propagande de guerre au titre de 10. Et comme on l'avait donc dit déjà dans une émission, eh bien que l'on écoute donc ces principes et qu'on se plonge ou qu'on se replonge dans notre mémoire, qu'on écoute, qu'on repense par exemple à la guerre menée contre la Yougoslavie, que l'on repense aux deux guerres du Golfe, ou qu'on le regarde tout simplement la situation donc actuelle dans le monde à travers les conflits auxquels nous assistons. Et notamment à travers, bien sûr, les déclarations des chefs, des dirigeants, des dictateurs, des présidents ou autres. Donc, 10 principes élémentaires. 1. Nous ne voulons pas la guerre. Et ça, tous le disent. Hein. Ils ne veulent pas la guerre, mais c'est existentiel pour eux de la faire. 2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3. Le chef du camp adverse a le visage du diable ou l'affreux de service. 4. C'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités et si nous commettons des bavures, c'est involontairement. 6. L'ennemi utilise toujours des armes non autorisées. 7. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. 8. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. 9. Notre cause a un caractère sacré. 10. Ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Donc on peut l'appliquer hein, à la Russie, on peut l'appliquer voilà, sur tout un tas de théâtres de conflits actuels. Donc des principes de propagande de guerre qui marchent. Partout, en toutes circonstances, pour tous les conflits. On peut même l'appliquer un petit peu partout dans le monde. Ça marche. Ça marche quasiment à tous les coups, parce que cette propagande relaie une dynamique, on va dire, qui est celle de tous les États quand ils rentrent donc en conflit, quand ils rentrent donc en guerre. Donc, au moins... si nous sommes aujourd'hui des spectateurs, spectatrices donc de ces guerres-là, au moins ne pas être vaincus. Vaincus dans notre capacité de voir, de comprendre, d'analyser, de réfléchir. Et même dans notre fauteuil ou notre canapé devant la télévision, eh bien, ne pas capituler face à cette propagande de guerre et rester, si c'est nos positions en tout cas, rester sur nos positions internationalistes, antimilitaristes, et donc ne pas succomber effectivement donc, à cette propagande de guerre. Parce que même si on ne meurt pas ici sous les missiles, les bombes, je le vois un petit peu comme, au sens figuré, une mort. Quelqu'un qui a des convictions et qui capitule devant la propagande de guerre, eh bien, quelque part, c'est comme si tout ce qu'il portait en lui comme conviction, comme désir, eh bien, s'était effondré et que quelque part, il était devenu mort. Et ainsi, pour ma part, c'est vrai que relisant un certain nombre de choses... sur l'éclatement de la guerre de 14-18 et le ralliement d'une partie de l'anarchisme donc à cette guerre-là, eh bien, bien sûr, ce ralliement s'est fait au nom du réalisme, au nom du pragmatisme, au nom de la guerre de la civilisation contre la barbarie, etc., etc. Mais quelle capitulation quand on est anarchiste ou même simplement pacifiste, antimilitariste, eh bien, de capituler ainsi, c'est comme si on avait été gagné, c'est comme si on avait gagné contre nous, c'est comme si on avait été vaincu, comme si on avait été donc écrasé en quelque sorte. Donc, au moins, même si ça peut paraître modeste comme première ambition, eh bien, ne pas capituler face à la propagande, ne pas se laisser désarmer par cette propagande-là. Au moins, à titre individuel, eh bien, ça peut rester peut-être une victoire. Alors, bien sûr, il fallait au-delà de ça, et je l'énonçais tout à l'heure, même dans ce grand effondrement que représente une guerre, eh bien, des individus vont continuer à penser, des individus vont continuer à agir, vont continuer à être solidaires, bien évidemment. Mais au moins, je dirais, ce qui est accessible et ce qui est à la portée de tout le monde, ne pas capituler devant la propagande, au moins essayer cette simple position, eh bien, de la conserver. Ce qui va se passer ensuite, on le sait, dans cette guerre-là, c'est qu'elle va durer. On ne sait pas, je parle de celle entre actuellement donc Israël et l'Iran. Elle va peut-être durer quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne sais pas. On voit d'ailleurs comment la guerre éclair qui devait être menée contre l'Ukraine eh bien, s'éternise après avoir fait donc déjà des centaines et centaines de milliers de victimes. Donc je sais que il y a tout un tas de stratèges qui savent dire, prédire, etc. Ce qui nous renvoie à notre débat qu'on va faire sur la futurologie, on en reparlera, qui prédisent ceci, qui prédisent cela, je ne sais pas. Cette guerre va-t-elle durer un jour, une semaine, plusieurs mois, je ne sais pas, va-t-elle causer un désastre humain, humanitaire en Iran, je ne sais pas non plus. Quoi qu'il en soit, tout cela, on le sait, va se terminer de la façon dont se terminent toutes les guerres. À savoir que les uniformes kaki vont s'effacer de nos écrans de télé pour laisser la place à de somptueux bureaux dans lesquels, autour d'une table, des hommes, non plus en kaki, mais en costume cravate, eh bien, vont donc arriver à négocier et à négocier donc la paix. Ça se termine toujours comme ça, c'est inéluctable, et après on rentre donc dans une nouvelle période qu'on appelle donc la paix. Et si on dénonce bien sûr les horreurs de la guerre, on doit aussi parler de ce qu'est la paix. La paix dans le monde capitalisme que je ne ressens, que je ne perçois que comme une parenthèse en réalité dans la guerre, celle des militaires, pour laisser place ensuite à la guerre économique partout à travers le monde, entre États notamment, et puis la guerre faite aux pauvres. Tout simplement. La paix, ce qui apparaît comme la normalité et qui ne devrait pas être perçu comme cela, la paix, c'est la paix de l'exploitation capitaliste, c'est la paix des inégalités sociales, c'est la paix de la guerre déclarée aux vivants par les logiques capitalistes à travers le monde. La paix, c'est cela aussi. Donc cette paix, même s'il est préférable de vivre ou de survivre en paix, eh bien, peut pas être perçue effectivement comme une finalité pour ceux qui aspirent à changer le monde, mais cette paix doit être aussi dénoncée. Cette paix, d'une autre façon, c'est aussi la paix de la mort programmée sur la planète. Contre le vivant, je le disais tout à l'heure. Donc on ne peut pas non plus se satisfaire donc de cette paix, de cette paix-là, et lui opposer à cette paix, eh bien, autre chose, à savoir la guerre sociale. La guerre sociale pour plus d'égalité, la guerre sociale pour l'égalité sociale, la guerre sociale pour le droit à une vie digne, décente pour tous les individus. la guerre sociale pour en finir avec l'État, pour en finir avec le capitalisme. Donc, cette notion de paix, je pense qu'on doit aussi la revisiter tout de suite, même si l'on fait bien évidemment la différence entre vivre dans une ville sur laquelle tombent des missiles et une ville, même si on se rend sur son lieu de travail pour y être exploité, si on s'y rend sans la crainte de se prendre un missile sur la tête. Bien sûr que cette différence existe. Mais doit-on se contenter donc du moins pire? Certainement pas. C'est ce à quoi veulent nous faire croire d'ailleurs les capitalistes. Hein. C'est Churchill lui-même qui le disait. Le capitalisme est le système le moins détestable. Et c'est ce à quoi on nous apprend à penser, c'est en termes donc de moins pire. Qu'est-ce qui est le moins pire? Ce qui est une façon de revoir considérablement à la baisse l'humanité et les exigences auxquelles pourrait aspirer l'humanité. Et donc, on nous fait envisager les choses comme ça. On veut nous faire renoncer de cette façon-là. En entretenant, par exemple, on n'en parle plus beaucoup en moment, pour l'instant, je veux dire, mais cette théorie de la fin de l'histoire. Voyez, dans le monde, deux grandes forces s'opposaient, le capitalisme et le communisme. Le communisme a failli. Regardez à l'Est, en Chine ou ailleurs, en Russie, à Cuba, ce qu'a donné le communisme. Le communisme a signé son échec. Le communisme, d'ailleurs, est quasiment mort. Ne reste plus que le capitalisme, même s'il n'est pas le meilleur des systèmes, il restera le moins pire, d'une certaine façon. Et donc, on serait arrivé, en quelque sorte, à une fin de l'histoire. Mais une fin de l'histoire dans un monde capitaliste, c'est l'histoire telle qu'on l'a toujours connue, c'est-à-dire l'État, les nationalismes, les guerres, l'exploitation des individus. C'est ce qu'on a connu depuis toujours. Donc, reste une autre possibilité, une autre piste, une autre voie, c'est la voie libertaire, et c'est celle qu'il faut essayer donc d'emprunter, même si le chemin est très étroit, il faut bien le reconnaître, même si le mouvement anarchiste aujourd'hui n'est pas le mouvement anarchiste, entre guillemets, des heures glorieuses de l'anarchisme. En tout cas, ça reste une piste, ça reste une voie, et cette voie, faut l'emprunter, je pense, et ne pas succomber à ce qu'on m'a parfois dit, même ici, dans cette émission-là. Vous avez raison, mais vous êtes tellement peu nombreux que à quoi ça sert, tout compte fait. Regardez-vous, votre mouvement, ce petit mouvement, vous avez raison, mais vous ne pouvez rien faire, etc. Et je disais alors, et quoi donc? Et on me dit, ben, on va essayer de faire ce qu'on peut, bien évidemment, lutter, résister au quotidien, et puis voter. Voter pour qui? Ben, voter pour le moins pire. Et on retombe donc dans cet écueil, à savoir, au nom d'une forme de pragmatisme, de réalisme, eh bien, en votant ou en souscrivant pour le moins pire, à la finale, eh bien, on souscrit pour ce mode de société, ce modèle de société que nous connaissons et dans lequel, au mieux, des gens veulent aggraver la situation d'un point de vue social, ou au mieux, des gens ont la prétention de vouloir réformer le capitalisme. Et encore, là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. J'évoquais tout à l'heure la capitulation du socialisme à travers ses multiples transformations pour abandonner l'idée de l'internationalisme, par exemple, mais on peut voir aussi, au point de vue social, comment la gauche, comment les forces de gauche ont capitulé, même devant quelques exigences que sociales que ce soit. On l'a vu avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, on l'a vu au moment du PS au pouvoir avec François Hollande. Tout le monde a en mémoire, je pense, l'épisode de la loi travail. Donc, avec un petit peu de mémoire, je pense qu'on peut être assez, assez clairvoyant. Donc, se méfier de ce piège qui consiste à penser donc le moins pire. Alors, on peut être opportuniste d'une certaine façon, bien évidemment, demander un meilleur salaire, demander un meilleur logement. Il y a tout un tas de choses à revendiquer qui relèvent de l'auto-défense. Mais penser le moins pire, notamment en termes électoraux, eh bien, c'est un petit peu c'est un petit peu l'abandon. C'est un petit peu voilà, on dépose les armes complètement et on souscrit donc à ce système-là, avec au mieux peut-être la possibilité. Eh bien, de l'aménager pour qu'il soit le moins pénible possible. Et l'expression « le moins pénible possible » est une façon édulcorée de parler du monde dans lequel on vit. Parce que si l'on pense le monde non pas de façon étroite, c'est-à-dire enfermé dans notre frontière, enfermé dans notre langue, enfermé dans un univers culturel bien particulier, mais qu'on se pense comme internationaliste, c'est-à-dire bien au-delà des frontières, eh bien, les bombes qui tombent actuellement sur Tel Aviv ou qui tombent sur Téhéran, Gaza qui est dévasté, les missiles qui ont pas mal secoué aussi des villes ukrainiennes ou dans quelques parties du monde que ce soit, eh bien, c'est pas parce que dans l'histoire, les États ont instauré des frontières qu'on doit continuer à penser dans le cadre étroit de ces frontières. Une bombe, un missile qui tombe sur quelques villes du monde que ce soit, eh bien, d'une certaine façon, on devrait se dire que ça nous atteint nous aussi, si on pense en termes internationalistes, c'est-à-dire sans frontières, eh bien, on doit se sentir concerné. Donc, il y aurait vraiment un esprit à réactiver, un esprit à revigorer. Cet esprit, c'est l'esprit antimilitariste. Alors, l'antimilitarisme ne mène pas forcément à l'anarchie. Ça peut être un des chemins qui mène vers une conception plus globale, plus radicale de la lutte pour l'égalité, pour la liberté, ou pour quelques valeurs positives d'un point de vue humain que ce soit. Mais en tout cas, ce serait déjà un grand progrès si, à travers le monde, eh bien, on pouvait penser effectivement comme internationaliste et non plus dans le cadre étroit de ces frontières, eh bien, on progresserait. Et c'est pour ça que je suis toujours très étonné d'ailleurs. J'ai vu les manifestations de soutien, dont j'ai souligné ce qu'elles avaient déclenché comme enthousiasme en moi à Los Angeles et au-delà dans plusieurs villes des États-Unis. Donc manifestations pour soutenir, aider, défendre donc les migrants. Mais dans ce contexte-là, je me dis pourquoi brandir un drapeau américain ? Pourquoi vouloir affirmer quelque chose qui est d'essence nationaliste, pour dire je suis fier d'être américain et l'Amérique, mon Amérique, c'est pas ça. Voilà une conception bien étroite aussi de la façon de penser. De la même façon, dans la communauté hispanique, on brandissait des drapeaux mexicains. Et là encore, on parle de défendre des migrants, on parle de solidarité. Pourquoi brandir des drapeaux mexicains et vouloir affirmer donc une adhésion quelconque à quelque État que ce soit ? Donc, on le voit, le chemin est long. Le chemin est long, le chemin est long. Et on se réjouit parfois, et on a raison de se réjouir. Mais le chemin est long, effectivement. C'est pas évident, c'est pas facile du tout, du moins lorsqu'on est donc sur des positions qui sont internationalistes et même au-delà, qui sont donc anarchistes. Ce qui n'enlève pas Pour ma part, parfois effectivement de l'espoir. Et je l'avais évoqué la semaine dernière quand j'ai vu cette explosion dans les rues de Los Angeles pour soutenir les migrants, qui est un cri humain, qui est un cri spontané, un cri de solidarité, que les gens ont défié la police, que les gens ont protégé physiquement, concrètement, des migrants. Voilà qui remplit d'espoir. En plus, des gens qui étaient dans la rue face à la répression étatique. De même, il y a quelques mois encore, quand dans les rues de Téhéran et des grandes villes d'Iran, quand j'ai vu ces jeunes, ces hommes, ces femmes, pendant ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui allaient braver l'ordre avec tout cela, avec tout ce que suppose cela de courage là-bas, face à ce régime-là, en chantant Bella Ciao dans les rues, bien évidemment que tout cela suscite de l'espoir. Mais dans ces moments d'espoir, eh bien, on voit que ressurgissent des choses dont on sait qu'elles pourront être à nouveau combattues demain. Parce que, quand il y a des appels, des élans solidaires qui portent des valeurs humaines fondamentales, et qu'en même temps, ces valeurs humaines fondamentales sont couplées avec l'idée de la démocratie, de la démocratie parlementaire, de la démocratie telle qu'on peut la vivre ici, eh bien, on en connaît les limites. Et ces limites, c'est que la démocratie enferme dans la réalité des inégalités sociales de la société de classe, société avec, dans ce cadre-là, des perdants avec des gagnants. On va écouter, parce que c'est vrai que j'avais trouvé ça, j'avais vu des images là-dessus et ça ne m'avait pas laissé indifférent le fait que dans les rues de Téhéran ou d'ailleurs, on chante Bella Ciao. On va en écouter une version. Reprise par les Ramoneurs de Menhir. On se retrouve dans quelques instants. C'est Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. tenu pas ça.
Radio Libertaire, l'émission donc lundi matin. Donc continuez à penser, continuez à réfléchir, continuez à écrire, continuez à parler, continuez à diffuser des idées et continuez aussi à agir là où on peut, bien sûr. Et je pense qu'en France, il y a quelque chose de très concret qui peut être fait. Alors il y a plein de choses concrètes qui peuvent être faites. On l'a vu récemment, des dockers, par exemple, ont refusé de transporter des armes à destination d'Israël, par exemple. Ensuite, il y a un domaine qui me paraît important dans ce moment où les bruits de bottes commencent à résonner sérieusement, y compris ici. Je l'avais énoncé dans une émission que à l'Assemblée nationale, il y a une commission qui travaille, qui est impulsée par la droite et l'extrême droite, qui travaille avec d'autres députés sur quelle forme de rétablissement du service militaire eh bien, on peut travailler. Alors, il y a différentes positions jusqu'au rétablissement du service militaire pur et simple. Et puis, il y a évidemment ce service national universel dont on a beaucoup parlé ici sur Radio Libertaire. Et les oppositions qui sont faites à ce service national universel. Et je pense que c'est un axe, d'une façon globale, réactiver l'antimilitarisme et le principe de l'internationalisme me paraît être évidemment une nécessité. Mais je pense, alors je ne sais pas si des jeunes écoutent la radio, des jeunes en âge de faire le SNU et qui pourraient demain être confrontés au service national universel si une application de celui-ci devait se faire dans une forme plus obligatoire, par exemple. Mais je pense que c'est là qu'il faut essayer de faire quelque chose, que une partie de cette jeunesse, au moins, ne considère pas ce risque comme quelque chose de secondaire, en se disant on verra bien demain, et puis on trouvera bien le moyen d'y échapper, et puis on verra bien, hein, de toute façon. Mais puisse commencer aujourd'hui à se questionner et à se positionner par rapport au fait d'un jour d'être appelé à une forme de service militaire, quelle qu'elle soit, et sous une forme obligatoire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Ça a été fait, hein. Il y a tout un tas d'assauts, de collectifs qui sont montés pour tenter de dire un certain nombre de choses là-dessus. Mais on ne peut pas dire que ça ait suscité un intérêt énorme. Et hélas, même pas du tout. Pourtant, je pense que ça peut être une direction, bien évidemment, hein, à savoir si on peut saper l'idéologie militariste à la base, c'est-à-dire là où elle essaye de rentrer, c'est-à-dire à l'école pour commencer, eh bien, il faut effectivement s'y opposer. Et puis, il y a un événement, et je voulais terminer là-dessus, qui me renvoie. Donc, puisqu'on parlait de la jeunesse, à ce que dit la réalité de la guerre en Ukraine, qui renvoie à la réalité de ce qui est la place des individus dans la société. À savoir qu'en Ukraine, quand on a 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, on ne va pas mourir sur le front. On reste à l'arrière du front. On envoie mourir par dizaines de milliers des gens âgés de plus de 25 ans. Et pourquoi ? Eh bien, parce que on considère tout simplement que, comme dans toute guerre, après la phase de destruction, il y aura la phase de reconstruction, à savoir qu'il faudra que l'économie redémarre, et que pour que cette économie redémarre, eh bien, on a besoin de la jeune génération. Donc, cette jeune génération, on ne l'envoie pas sur le front, on ne l'envoie pas faire la guerre, on la préserve pour l'après-guerre, pour la relance donc de l'économie. Ce qui me renvoie à un autocollant que anarchiste que je voyais et qui disait en substance aujourd'hui chair à travail, demain chair à canon. Et c'est quand on énonce les choses comme ça, il y a une certaine forme de cynisme, mais on voit aussi qu'il y a une certaine forme de l'expression d'une réalité tout simplement. Et c'est pour ça que je livrais cet exemple donc de l'Ukraine, de cette jeunesse préservée de la guerre, mais certaine d'aller se sacrifier donc au travail pour la reconstruction du pays. Il est moins 5, on va se quitter là-dessus, et puis se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode donc de lundi matin. Ne manquez pas, si vous passez à la librairie Publico, il y a un rayon consacré donc à l'antimilitarisme qui est assez nourri avec tout un tas de textes, des plus contemporains aux plus historiques, qui peuvent contribuer à enrichir une réflexion. Donc vous pouvez les retrouver en passant, ou les retrouver aussi sur le site de la librairie si vous êtes loin de Paris, ou si vous ne pouvez pas trop vous déplacer, c'est librairie-publico.com. Voilà. Et puis l'autre site, librairie-publico.info, c'est donc les rendez-vous, les événements, comme on dit, de la librairie. Voilà, à la semaine prochaine. Un dernier titre qu'on va écouter, un titre d'un groupe qui avait été produit à l'époque par le label Visa, qui était un groupe assez original, vous allez l'écouter tout de suite, il s'appelle Dazi Baou. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site pour l'émission lundi matin, anarchiste.info. Au revoir, à la semaine prochaine. Ça continue sur Radio Libertaire avec à 14h30 la reprise en direct des émissions avec l'émission Onde de Choc. En attendant, ce sera de la musique et de la chanson. Au revoir, bonne semaine à toutes et tous. Oh, well, if you